Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de l'Institut national Genevois et vous remercie d'être venus vraiment nombreux, d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Le cycle de conférences, débat aussi, politique et religion, qui débute ce soir, est le fruit d'une collaboration, la collaboration de l'Institut national Genevois et d'un cercle, le cercle Liberté de conscience et laïcité. Ce cercle, qu'en raccourci, nous appelons le CLCL, est né voici un peu plus de 3 ans. Il s'est constitué dans un premier temps autour d'anciens constituants qui voulaient faire entendre leur voix lors de la mise en œuvre des articles relatifs à la laïcité qui figurent dans notre nouvelle constitution. Mais accroissant leur domaine de réflexion et leurs ambitions aussi, ces constituants ont rapidement accueilli dans leur sein d'autres personnalités engagées, elles, dans les milieux religieux du canton, avec l'objectif de contribuer au maintien de la paix religieuse à Genève, ainsi que de l'enseignement du fait religieux dans les écoles. C'est avec ces préoccupations que le CLCL a participé à la consultation lancée par le groupe de travail sur la laïcité du Conseil d'État, qu'il a été auditionné par le Grand Conseil et qu'il a publié divers textes dans les journaux romans. Parmi les moyens dont le CLCL a résolu de se doter pour réaliser ses objectifs figure l'organisation de conférences et de débats publics. C'est à cet éclairage qu'est née la collaboration du Cercle et de l'Institut national Genevois, une collaboration qui ne surprendra pas les membres et les amis de l'Institut national Genevois, puisque la mission de notre institution est de permettre à nos concitoyens de discerner et d'approfondir leur compréhension des changements qui marquent notre environnement politique, économique, culturel, social. Mesdames et messieurs, chers amis, les articles constitutionnels et le projet de loi du Conseil d'État sur la laïcité s'inscrivent dans le contexte politico-social qui interpelle grand nombre de nos concitoyens, marqué qu'il est par l'émergence d'une nouvelle religion dans notre pays, par les conflits du Moyen-Orient et les conséquences dramatiques de ces conflits en Occident. À l'évidence, l'impact de ces changements sur la vie des Genevois, sur notre vivre ensemble, est fort. Il allait donc de soi pour l'ING de mettre à disposition du CLCL son infrastructure et son expérience dans l'organisation d'événements du type de celui qui nous rassemble ce soir. Plus que cela, il allait de soi que l'ING prenne une part active dans la concrétisation du cycle politique et religieux. Dans le cadre de ce cycle de conférences et de débats, ce sont donc 3 conférenciers qui, au cours du mois de mai, nous feront profiter de leur savoir et de leurs convictions. Ce soir, nous entendrons le professeur Jean-François Bayard, qui occupe à Genève la chaire religion et politique dans le monde contemporain à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Mais, au préalable, en cette première soirée, j'ai le très grand plaisir d'accueillir M. le conseiller d'État Pierre Maudet, qui préside le département de la sécurité et de l'économie. Pierre Maudet qui, malgré un agenda évidemment particulièrement chargé, a accepté non seulement de nous faire l'honneur de sa présence, mais encore de nous transmettre un message, celui du chef du département qui est à l'origine du projet de loi sur la laïcité. Je lui passe la parole.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, merci de m'accueillir pour quelques mots ce soir. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous Et je corrige d'emblée ce que vient de dire Pierre Kuhn, c'est un message du Conseil d'État, pas seulement du conseiller d'État, un message du Conseil d'État. Je suis heureux d'être parmi vous parce que le débat sur la laïcité nous semble un débat éminemment intéressant, mais surtout éminemment nécessaire. Et dans le flot d'affaires à régler chaque jour qui nous amène, nous les conseillers d'État, à prendre mille et une décisions, il est bon, il est même nécessaire, à intervalles réguliers, de s'extraire un peu, de prendre de la hauteur et de réfléchir aux valeurs, j'allais dire cardinales, disons plutôt fondamentales, qui animent notre société et notre République. Alors on m'a demandé ce soir de vous adresser quelques mots en préambule, ce n'est pas moi la star, professeur, c'est vous dans un instant qui nous tiendrez en haleine, mais je l'ai fait d'autant plus volontiers que nous nous trouvons dans un contexte, dans des circonstances particulières. Ce contexte, Pierre Kuhn l'a rappelé, c'est à la fois celui d'un processus de maturation lente, au terme du vote par le souverain genevois de la nouvelle Constitution, c'est un article 3 qui consacre, et c'est nouveau, le principe de laïcité comme un principe fondamental pour notre vivre ensemble, et qui doit être transcrit, c'est ce à quoi s'attelle le Conseil d'État depuis bientôt 4 ans, dans un dispositif législatif, donc dire, en quelque sorte, cet article 3 de notre nouvelle Constitution, comment est-ce qu'on va le traduire dans la réalité? Qu'est-ce que ça va signifier pour nous? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté religieuse? Quelles sont les interactions, de quelle ampleur, de quelle nature entre l'État au sens large, le Conseil d'État, les institutions, mais aussi les collectivités locales et ces communautés? Donc il y a ce premier élément de contexte qui rend la discussion de ce soir et le cycle de conférences intéressant parce que tout n'est pas figé. Il y a une proposition sur la table, un projet de loi du Conseil d'État, mais au-delà de ça, il y a des discussions, un débat citoyen qui se passe pour partie au Parlement, pour partie sur la place publique, et c'est ce qui rend précisément la chose intéressante. Et puis il y a un deuxième aspect, un peu plus négatif, mais que je ne peux pas m'empêcher de citer parce qu'il fait partie du contexte, c'est ce que j'appellerais ce fichu débat, pour reprendre un fameux titre du Canard enchaîné d'il y a quelques années à propos du voile, c'est de vous dire que dans les circonstances actuelles, le terme de laïcité a une résonance particulière et des définitions assez variées. Dans ce contexte qui est celui des attentats de Paris, puis de Bruxelles, dans ce contexte qui est celui d'une exacerbation des tensions religieuses, dans ce contexte, et on le vit comme élu politique, où tout est prétexte à une étincelle pour faire jaillir parfois l'intelligence, mais ce n'est pas si fréquent que ça, parfois surtout l'anathème et la tension, bien il est précisément nécessaire d'évoquer la question de la laïcité et de faire ce cheminement ensemble, ce travail sur la définition à lui donner. Alors j'aimerais ce soir à la fois vous adresser des remerciements, merci de nous permettre de prendre de la hauteur, c'est le propre de l'ING, mais enfin encore faut-il le concrétiser, d'organiser ce débat, mais de vous féliciter aussi parce que ça ne va pas de soi de poser le débat dans les termes dans lesquels vous le faites, à savoir associer politique et religion. Je me rends compte à intervalles réguliers à la faveur de ce projet de loi sur la laïcité que le Conseil d'État a déposé au Parlement que le principe même d'accoler politique et religion heurte encore passablement de gens. Pour beaucoup, en effet, politique et religion devraient s'ignorer. Le postulat de base du Conseil d'État, c'est de dire que ça n'est ni raisonnable, ni réaliste, ni surtout constitutionnel de faire en sorte que ces deux mondes s'ignorent totalement. Au contraire, il doit y avoir des liens. Toute la question, c'est de connaître l'intensité et la nature de ces liens. Donc j'aimerais, au-delà des remerciements, vous féliciter parce que le processus qui va nous amener à définir une laïcité moderne est au moins aussi important que le résultat. Ce processus est un processus éminemment citoyen. Arrêtons-nous quelques instants sur cette définition de la laïcité qui n'est de toute évidence pas celle du dictionnaire, ou plutôt pas seulement. Il suffit de voir chez le grand voisin français comment l'on définit aujourd'hui et avec quelles difficultés on définit la laïcité pour se rendre compte que c'est aujourd'hui quand même un peu un mot fourre-tout, un mot qui a une histoire mais qui s'inscrit dans un contexte. Le contexte genevois est particulier. Nous avons au Conseil d'État la faiblesse de croire que la laïcité, c'est d'abord la recherche d'un équilibre. C'est quelque chose qui a permis à notre petite République, très marquée, j'y reviendrai dans un instant, par le fait religieux, de préserver et de faire en sorte que les différentes communautés présentes sur notre territoire puissent cohabiter en bonne intelligence. La paix religieuse qu'évoquait Pierre Kuhn il y a un instant, ce n'est pas un vain mot dans notre République. Et la laïcité en est le garant. Mais la laïcité, précisément, c'est un concept qui a évolué au cours du temps. On va sans doute dans quelques instants remonter quelques siècles en arrière du côté de Calvin pour voir, je l'espère en tout cas, faire la démonstration qu'il a largement contribué à la définition de ce que pouvait être la laïcité, avec tout le paradoxe que recèle précisément l'intervention de Calvin, qui par nature est évidemment quelqu'un porté d'abord sur le religieux. Je crois que Genève a fait la démonstration que la laïcité pouvait recouvrir plusieurs formes. Ce que l'on a souhaité avec notre loi au niveau du Conseil d'État, c'est de faire en sorte que celle-ci s'inscrive dans une forme d'ouverture. Encore faut-il définir ce que c'est qu'une laïcité ouverte. Vous avez peut-être vu ces derniers jours, y compris ici à Genève, que la résonance donnée à une laïcité par trop ouverte pouvait s'avérer assez rapidement problématique, mais ouverte et positive. Ce que je veux dire par là, et c'est ce qu'on a essayé de transcrire dans ce projet de loi à travers l'article 3 de la Constitution, c'est de dire que la laïcité doit d'abord servir à unir, pas à diviser, pas à opposer. Ce n'est pas un concept négatif. La laïcité, c'est d'abord quelque chose qui nous permet d'identifier ce qui relie dans les communautés et entre les communautés et la collectivité. C'est donc, de ce point de vue-là, une valeur très républicaine, parce qu'elle permet la liberté et la paix religieuse. La laïcité, ça n'est pas non plus, et c'est important de le souligner, parce que de nos jours, ça n'est pas acquis, la laïcité, ça n'est pas non plus l'ignorance des religions par l'État. On a aujourd'hui une frange de la population, qui est d'ailleurs peut-être représentée dans cette salle, ce sera intéressant de le voir tout à l'heure dans le débat, qui considère qu'une laïcité pure et dure, appelons-la comme ça, c'est finalement une disposition qui viserait à garantir le fait que l'État ne se mêle absolument pas du religieux, et d'une certaine façon le nie. Du point de vue du Conseil d'État, sous certaines conditions et en toute neutralité, la laïcité doit permettre au contraire de donner un espace de respiration et d'expression. Et je peux vous dire, comme ministre en charge des questions de sécurité, que cet espace, par exemple, dans le domaine des prisons, il est archi-fondamental, nécessaire, et il doit générer une reconnaissance de l'État, dans un périmètre bien défini, vis-à-vis de l'intervention du religieux, avec tous les dangers que ça peut receler, et tous les fantasmes que j'entends aujourd'hui, s'agissant, par exemple, des phénomènes de radicalisation en milieu pénitentiaire. Mais donc, pour l'État de Genève, la laïcité, c'est pas l'ignorance des religions, c'est générer un espace de respiration et d'expression. Et puis aujourd'hui, une autorité ne peut pas seulement prendre acte d'une réalité religieuse ou d'une croyance partagée, il doit l'accompagner, ça c'est la Constitution qui le dit, n'en déplaise à certains qui aimeraient refaire le travail de la Constituante, les communautés sont reconnues, elles existent, il faut travailler avec elles, il est bien inscrit dans l'article 3 de la Constitution que l'on entretient des relations, reste à définir lesquelles, avec les communautés religieuses. Mais parfois ça va même plus loin, et ce sera intéressant de vous entendre là-dessus, professeur, parce qu'on a des gens qui, au-delà de la notion d'ignorance que devrait recouvrir la laïcité, donc on ignore les religions, certains vont même au-delà, et voudraient, c'est ce qu'on nous dépeint à travers des projets de loi concurrents, un monde sans croyance. Un monde sans croyance, c'est évidemment une utopie. On pourrait ici reprendre, en paraphrasant l'autre, cacher cette religion que je ne saurais voir. Genève devrait devenir la cité a-religieuse. Ça nous semble évidemment impossible. Donc il ne s'agit pas pour moi de connaître maintenant les raisons de l'expression d'une croyance, ça l'État n'a pas à s'en mêler, mais de connaître quel risque il y a à autoriser, par exemple dans le domaine public, respectivement quel risque il y a à vouloir interdire l'expression du fait religieux. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là que la notion de présence du fait religieux à l'école est centrale, et la nature, l'intensité de ce lien est centrale également. Qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on interdit? Où s'arrêtent les convictions personnelles? Jusqu'où est-ce qu'un agent de l'État peut porter ou pas à la connaissance, ici des élèves, là des détenus, des éléments de nature religieuse? Si l'on ne traite pas ce débat aujourd'hui de façon dépassionnée, de façon aussi rationnelle, eh bien demain, on court le risque de connaître le destin funeste de ce débat-là que connaissent précisément les Français qui, de mon point de vue, ont perdu toute chance de pouvoir l'organiser à peu près rationnellement. Encore un mot pour vous dire, parce que c'est là aussi le propre du Conseil d'État de le rappeler, que cette loi, cet article constitutionnel, il tombe pas de nulle part. Genève a toujours entretenu une relation un peu ambiguë avec la religion. Prenez les armoiries, tout est religieux dans les armoiries. Prenez le Sekeleno, qui, au gré de ses 68 strophes, égrène alors le récit des batailles, mais évidemment aussi toute une série de références aux maîtres des batailles, précisément au Très-Haut. Idem pour l'hymne national suisse, si l'on quitte Genève, ou la Constitution suisse qui s'ouvre au nom de Dieu Tout-Puissant, ce vibrant appel. Donc, selon l'époque, il n'y a pas un serment, pas un testament, pas un événement de la vie, pas un seul acte de l'État, et pas une seule guerre d'ailleurs, qui n'était accompagnée d'un rythme religieux. Cela, il faut en tenir compte, ça marque évidemment notre petite République. Pour conclure, je me réjouis de vous entendre sur les causes et l'historique, mais aussi sur les perspectives. Parce que je ne crois pas, et je le dis ici en mon nom personnel comme au nom du Conseil d'État, sur la capacité et l'intérêt même de gommer totalement le religieux. Le religieux permet aussi un accès au monde, permet de donner un sens. Encore faut-il être suffisamment éveillé pour le recueillir et faire en sorte que l'espace public consacré par la laïcité nous permette précisément d'organiser ce débat. Voilà, je me réjouis de vous écouter. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon cycle de conférences, en vous rappelant, comme toujours, l'enseignement qui veut qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Merci, monsieur le conseiller d'État. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes entrés dans le vif du sujet. Et je, sans plus attendre, je passe la parole à Henri Maudet, qui va nous présenter notre conférencier de ce soir.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, vous avez constaté que nous sommes dans le domaine religieux, puisque après le fils, vous avez le père. Quant à l'esprit, on va voir. Mais méfions-nous, le diable est dans les détails, donc on saurait trop être prudent. Il m'a été demandé, et j'ai le grand plaisir de présenter le conférencier de ce soir, Jean-François Bayard. Jean-François Bayard, je vous tourne un peu le dos, vous m'excusez, mais c'est de la disposition. L'ING est très très pauvre, il est très peu riche, il a besoin de beaucoup de moyens, donc n'oubliez pas l'ING. Jean-François Bayard, né en 1950 à Boulogne-Billancourt, est un politologue français, directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, et dont la spécialité est la sociologie historique comparée de l'État. Donc on est en plein dans le sujet. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique subsaharienne et sur l'historicité du politique. Il est actuellement professeur, on l'a dit, à l'Institut universitaire des hautes études internationales et du développement de Genève, l'IHEID, que tout le monde connaît, j'imagine. Monsieur le professeur, vous avez été le fondateur des revues politiques africaines en 1980, critique internationale en 1998, et de la collection Recherche internationale en 1998 aux éditions Cartala. Vous avez été le directeur du Centre d'études et de recherche internationale de sciences politiques de Paris, de 1994 à 2000, et le président fondateur du Fonds d'analyse des sociétés politiques depuis 2003. Vous êtes commentateur de la politique internationale dans différents médias, notamment Mediapart. Vous avez été consultant permanent du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères de la République française et membre de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Enfin, vous avez enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'Université de Paris-Sorbonne, Université de Lausanne, Université de Turin. J'en viens au thème de ce soir. Vous êtes titulaire de la chaire Yves Oltramar, on l'a dit à l'IHEID, religion et politique dans le monde contemporain. Eh bien nous, à l'ING, nous avons inversé le titre. Ce soir, ça sera politique et religion dans le monde d'aujourd'hui. César et Dieu. Le CLCL a remarqué la publication en 2015 aux éditions Cartala de l'ouvrage suivant, La cité cultuelle, avec le sous-titre, Rendre à Dieu ce qui appartient à César. Je répète, rendre à Dieu ce qui appartient à César. Titre paradoxal et surprenant, mais pas autant qu'on l'en croit, et vous nous direz pourquoi. Je précise que cet ouvrage est disponible à l'issue de la conférence, débat et de mise en vente. Vous pouvez l'acquérir au prix modique de 25 francs environ. Environ. Et il n'y a pas de petit profit. Dieu et César, un couple à repenser, dites-vous, ou bien est-ce que ce ne serait pas un couple à séparer, un couple à sauver, à penser, P-A-N-S-E-R, ou à penser. Votre recherche et celle de vos jeunes collègues, monsieur, montrent que la religion, au sens anthropologique du terme, a été au cours des siècles et est encore un facteur, écoutez bien, un facteur paradoxal de déconfessionnalisation de la structure étatique en formation. Autrement dit, quand l'État est en formation, quand l'État se construit, se forme, l'arrivée de la religion structure cet État en formation et du même coup perd sa force, son énergie, qui se transfère au sein de l'État. Et donc, c'est paradoxal, mais la religion, l'histoire le montre, et en tout cas les monographies qui sont dans cet ouvrage, que, en fait, ça accompagne la sécularisation de la société. Ce constat est vraiment intéressant et il aide, de notre avis, à penser la problématique contemporaine dont il est question. La cité cultuelle, comme vous dites, c'est-à-dire le corps social avec ses rites, ses pratiques, son corpus légal, etc., se trouve à l'âge de la globalisation, et ce paradigme dit ceci. Premièrement, le fait religieux revêt de multiples sens, ce qu'on appelle la polysémie, et il est apte au changement social, voire un facteur dynamique. Le fait religieux est constitutif de la construction de la cité, de l'État. Alors l'exemple genevois est évident. Il accorde sa force à la cité cultuelle. Il y a irréductibilité du temps religieux par rapport au temps politique. Le temps religieux, il a tout son temps. Le temps politique, il est bref, a priori. Enfin, il y a irréductibilité de la croyance chez l'être humain. C'est un invariant de la nature humaine. Il s'agit donc de la prendre au sérieux, cette croyance, cette donnée, et le politique doit le faire en premier. Je termine. Entre le politique et le religieux, l'interaction, en fait, elle est mutuelle, permanente et généralisée. César et Dieu, ou Dieu et César, sont, comme vous dites, des larrons inséparables, même quand ils se chamaillent, dites-vous. Alors, expliquez-nous cela, monsieur, s'il vous plaît.
Monsieur le conseiller d'État, messieurs les présidents, chers amis, mesdames et messieurs, en tant que junior partner, si vous voulez, que j'affronte ce redoutable problème qui nous est soumis. Je m'empresse de dire que je ne participerai pas au fichu débat auquel vous faisiez allusion, monsieur le conseiller d'État, celui de la laïcité, et singulièrement la question de la laïcité à Genève. Parce qu'en effet, non seulement je suis catholique, mais en plus je suis français, nul n'étant parfait sur cette terre, et je n'ai ni la légitimité, ni la compétence pour appréhender le débat politique ou le débat public autour de la question de la laïcité dans la bonne ville de Genève, même si je l'évoquerai de temps à autre au fil de ma présentation, mais sans prendre parti sur le fond, un fond que j'ignore très largement. Une dernière remarque liminaire, vous y avez fait allusion, je crois qu'il est extrêmement difficile de traiter le fait religieux, et notamment du point de vue des sciences sociales. Parce que le chercheur en sciences sociales doit prendre en considération l'importance d'un fait qu'il ne peut pas pénétrer. Importance sociale d'un fait, celui de la foi, et par définition, le chercheur en sciences sociales, à partir du moment où il raisonne en tant que chercheur, et peu importe sa croyance ou sa non-croyance religieuse, est dans l'incapacité de comprendre, de pénétrer ce qui relève de la transcendance, ce qui relève de la relation du croyant à son Dieu. Il y a donc une espèce de paradoxe et de gêne du chercheur par rapport aux faits religieux. Il en reconnaît l'importance, ou en tout cas il doit en reconnaître l'importance. Ce n'est pas toujours de règle dans l'université très laïque de la République française, mais il devrait en tout cas prendre toute la mesure du fait religieux et d'un autre côté admettre l'irréductibilité de ce que Max Weber nommait les logiques intrinsèques de la religion, les logiques intrinsèques de la foi et notamment toute cette dimension de la transcendance.
Je voudrais introduire ma conférence en relativisant et en contextualisant le débat et la réflexion sur le religieux. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes prisonniers d'une fausse évidence relative à la revanche de Dieu, comme l'avait écrit Gilles Kepel il y a déjà fort longtemps, à un retour de Dieu ou de la question religieuse sur le devant de la scène, ce qui n'est pas aussi évident que nous voulons bien le croire. Il y a peut-être un retour de l'interprétation en termes religieux du politique, mais ce qui est très différent d'un retour du religieux à proprement parler. Pour mieux me faire comprendre, je voudrais en prendre quelques exemples, souvent dramatiques, tirés de l'actualité. Par exemple, Boko Haram. Boko Haram, mouvement armé, millénariste, islamique, qu'immédiatement on assimile à Daesh, Al-Qaïda, et Boko Haram lui-même se réclame de la filière Daesh, si mes souvenirs sont bons, à moins que ce soit Al-Qaïda, mais à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ce n'est pas le fond du problème. Et je voudrais vous suggérer de relativiser la dimension islamique de Boko Haram. Parce que si Boko Haram est à proprement parler un phénomène islamique, l'on comprend mal pourquoi ce n'est pas l'ensemble du nord du Nigeria, à majorité islamique, qui est mobilisé, qui est atteint par le phénomène Boko Haram. En réalité, Boko Haram se concentre sur la frontière nord-est du Nigeria, la frontière avec le Tchad, la frontière avec le Cameroun. Et à n'y bien regarder, Boko Haram renvoie à une économie politique de la frontière que nous devons comprendre en termes historiques, en termes politiques, sur une période d'au moins un demi-siècle et vraisemblablement d'un siècle, hein, en remontant à la traite esclavagiste de la fin du XIXe siècle, au rôle commercial de Fort Lamy, aujourd'hui N'Djamena, base arrière de la 2e DB pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a transformé Fort Lamy en grande ville diasporique et commerciale à l'échelle du bassin du lac Tchad. Ensuite, toutes les rébellions tchadiennes qui se sont succédées et qui ont diffusé une culture de la violence, la diffusion des armes à feu également, et l'enjeu majeur du contrôle des marchés frontaliers. Donc on peut avoir une lecture complètement, entre guillemets, non-islamique de Boko Haram, parce qu'encore une fois, si l'islam était central dans ce phénomène, ce serait l'ensemble du nord du Nigeria qui serait concerné. On nous parle beaucoup aujourd'hui de Daesh. Daesh a une dimension religieuse évidente, mais il n'y a pas que cela. Daesh a été créé par tout un courant sunnite, bassiste, les fidèles, notamment les officiers bassistes de Saddam Hussein, qui, évincés du pouvoir par l'intervention de 2003, se sont alliés à certains rameaux d'Al-Qaïda pour créer ce nouveau mouvement. Mais on sait que les officiers bassistes d'Al-Qaïda ont un agenda extrêmement différent de celui, par exemple, des djihadistes français ou belges qui rejoignent l'État islamique au Mashrek. De la même manière, l'État islamique, Daesh en Libye, porte plutôt les espoirs ou les soucis de revanche des anciens kadhafistes, et vraisemblablement, Daesh à Sirte n'a pas grand-chose à voir avec le Daesh de l'Irak, sans même parler de la composante syrienne de Daesh, composée de transfuges de l'appareil de sécurité d'Assad, qui ont décidé un jour que trop, c'était décidément trop, et ont rompu avec un régime confronté à la dérive que nous connaissons. Vous avez également vu passer, j'imagine, dans les journaux, la sévère polémique entre Gilles Kepel, qui parle d'islamisation, qui parle de radicalisation islamique, face à un Olivier Roy qui, lui, parlera plutôt d'islamisation de la radicalité, comparant les djihadistes européens, par exemple, moutadistes, moutandistes, bien entendu, aux brigadistes rouges des années 70-80 en Italie. On pourrait multiplier les exemples, je n'en prendrai qu'une dernière brochette, si je puis dire. En Afrique de l'Ouest, les grands changements politiques de ces dernières années ont été portés non pas par des acteurs religieux, mais par des rappeurs, par exemple les Yanamar au Sénégal, ou par le Ballet Citoyen au Burkina Faso. Donc le religieux n'est peut-être pas aussi présent, aussi sur le devant de la scène qu'on le suppose volontiers. Ce qui m'amène à une autre remarque, si vous voulez, c'est que nous ne devons pas avoir de la religion une interprétation culturaliste. Nous ne devons pas essentialiser la religion. Je dis volontiers dans mes cours, ne serait-ce que pour effrayer et réveiller mes étudiants musulmans, que l'islam n'existe pas. Je veux dire, du point de vue des sciences sociales, l'islam n'existe pas. Les musulmans existent. Mais le problème, justement, c'est que les musulmans, ils ont des interprétations de l'islam complètement différentes. Si l'islam voulait dire quelque chose politiquement, l'Irak, la Syrie, l'Algérie dans les années 90, l'Iran au lendemain de la Révolution, ou aujourd'hui la Turquie, seraient des havres d'harmonie, puisque tous ces pays sont à 90-99% musulmans, et pourtant ont connu ou connaissent de graves crises politiques affrontant les musulmans aux autres musulmans. Aujourd'hui, ce que l'on appelle la violence islamique est interne aux sociétés musulmanes avant éventuellement de frapper les sociétés occidentales. Donc politiquement, il en est de l'islam comme du christianisme, on peut lui faire dire tout et le contraire de tout. Le concept même de djihad est un concept, comme aurait dit un homme célèbre de Genève, est un concept polysémique, il a plusieurs sens. Le concept de djihad renvoie certes à la lutte armée, mais cette lutte armée peut être défensive, la défense de Dar al-Islam, de la terre d'islam, ou alors on peut en avoir une conception plus offensive, à l'instar par exemple de M. Ben Laden. Bourguiba, lorsqu'il boit son verre de jus d'orange en plein ramadan, le fait au nom du djihad du développement. Bourguiba se réclamait du réformisme islamique, qui n'était pas du tout laïque, comme les Français veulent bien le dire. Et le véritable djihad pour les croyants musulmans, c'est le combat qu'ils se livrent à eux-mêmes pour devenir de meilleurs croyants. Donc ce concept de djihad, qui est au cœur de la pensée religieuse de l'islam, est politiquement parfaitement polysémique et, la plupart du temps, connaît une interprétation quiétiste, qui n'a rien à voir avec le combat politique. En d'autres termes, le phénomène religieux renvoie nécessairement à d'autres facteurs de l'histoire générale. La religion est toujours dotée d'une historicité particulière, la religion est dans son temps et se définit par rapport à ce processus de formation de l'État ou de la cité politique, mais également par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui le marché ou par rapport aux grandes transformations technologiques. Il est évident que le christianisme que nous pratiquons ou l'islam que nous pratiquons est aujourd'hui indissociable des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un des grands problèmes, par exemple, que le cardinal de Manille a dû trancher était le caractère licite ou non de la confession par SMS sur téléphone portable. Il a dû expliquer à ses ouailles que non, on ne pouvait pas se confesser par SMS. Donc vous voyez que la technologie influe sur la teneur même du fait religieux. Je crois que cette remarque est absolument fondamentale, y compris pour réfléchir à la question qui nous occupe dans ce cycle et dans cette actualité politique, aussi bien à Genève qu'en France. La séparation des églises et de l'État, des cultes et de l'État, que ce soit à Genève en 1907 ou en France en 1905, est indissociable de la formation, si vous voulez, de la cité politique, mais également de la réalité sociologique du fait religieux dans chacune des deux républiques. On voit bien comment la séparation en France, au fond, a visé à remettre, je dirais en bon laïcard, à sa juste place, une religion qui était une religion dominante, la religion catholique, et qui était étroitement liée à une classe politique dominante qui restait très largement monarchiste. Donc la séparation en France avait pour objet de remettre à sa place, de cantonner l'influence politique d'une religion socialement et religieusement, vous me pardonnerez la tautologie, dominante, liée à l'institution monarchique et une religion qui était ultramontaine, qui reconnaissait la primauté de l'autorité du pape sur les autorités de la République. Sauf erreur de ma part, et vous n'hésiterez pas à me corriger le cas échéant, la séparation à Genève a un sens complètement différent. Elle permet d'ouvrir la cité, d'intégrer à la cité une population qui est devenue majoritairement catholique du fait de l'annexion d'un certain nombre de territoires au lendemain du congrès de Vienne, mais également du fait de l'immigration, du fait de la montée en puissance économique de la ville. Et donc nous avons une séparation qui vise à intégrer civiquement une partie de la population qui reste subalterne à l'égard d'une minorité dominante protestante. Mais dans les deux cas, nous voyons bien que ces deux séparations étaient des séparations libérales. Et de ce point de vue, je dois confesser, mais dans un autre sens du terme, ma croyance salafiste de la laïcité. Je suis un salafiste de la laïcité française, c'est-à-dire que je veux revenir à l'esprit et à la lettre de la loi de 1905, qui était une loi de séparation des cultes et de l'État, dans un sens libéral et avec un très grand sens du compromis, de l'arrangement. Et d'ailleurs, vous savez que dans les années ultérieures, des amendements, d'autres lois, d'autres dispositions réglementaires ont été prises pour apaiser les inquiétudes, voire la colère des catholiques. Et par définition, la séparation genevoise est effectivement une loi d'apaisement. Je vous rappelle de ce point de vue, et monsieur le conseiller d'État, vous nous le disiez, que le terme de laïcité a connu des évolutions. D'ailleurs, le terme de laïcité n'existe pas en France en 1905. Il n'apparaît dans le vocabulaire français que dans les années 1930. Et ça n'est que la Constitution de 1945-1946 qui constitutionnalise la laïcité. Donc il y a une historicité de cette notion de laïcité. Et aujourd'hui, nous voyons bien comment ceux que l'on appelle justement les laïcards sont en train de transformer l'idée laïque, qui était une idée d'émancipation, une idée libérale, en une nouvelle religion nationale civique. Or, la cible de cette laïcité moins salafiste que fondamentaliste ou extrême, ça n'est pas du tout la religion dominante, c'est la religion des immigrés musulmans, c'est la religion subalterne. Donc aujourd'hui, la laïcité n'a pas du tout la même connotation sociale et politique qu'elle pouvait avoir, que l'idée laïque pouvait avoir en 1905. Et tout cela, naturellement, nous ne pouvons le comprendre que si systématiquement nous mettons le fait religieux en relation avec les transformations générales de la cité, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre économique, technologique ou culturel. Je tirerai de ce propos liminaire une première leçon de méthode en me référant à un grand historien du fait religieux de l'Antiquité, Paul Venn. Paul Venn, examinant la Villa des Mystères à Pompéi, nous enjoint de ne pas céder à la surinterprétation religieuse. Vous savez que tout un courant avait attribué à la Villa des Mystères des vertus ésotériques, et en fait, c'était la décoration un peu olé olé, petite bourgeoise, pourrait-on dire, de villa secondaire. Bon, Paul Venn, de manière très subtile, très amusante, à partir de cet exemple, nous demande de ne pas surinterpréter religieusement les faits sociaux, y compris les faits religieux. C'est d'ailleurs un historien jésuite français, Michel de Certeau, qui disait qu'il était impossible dans une pratique religieuse d'isoler la dimension religieuse de cette pratique, parce qu'il y a toujours beaucoup plus que du religieux. Il y a du social, il y a du culturel, il y a de l'économique. Il suffit d'examiner un pèlerinage, aussi bien catholique que musulman, pour s'en rendre compte. Et Paul Venn note que dans le champ religieux, il y a des intensités très différentes. Il y a des virtuoses de la religion, comme disait Max Weber, utilisant une expression assez courante dans l'Allemagne du début du XXe siècle. Et puis, vous avez des gens qui sont religieux, qui vont au temple ou à l'église par conformité, comme ils portent des vêtements, parce que la religion permet d'accéder à une certaine dignité sociale. Donc il y a des intensités religieuses extrêmement différentes, et naturellement, l'analyste du politique doit en tenir compte, sans jamais oublier que les notions religieuses sont politiquement polysémiques. Je voudrais que nous, si vous m'y autorisez, que nous réfléchissions en deux étapes. Dans un premier temps, je voudrais, pour mémoire, pour défricher un petit peu le terrain, vous présenter le plus rapidement possible quatre types idéaux d'articulation du politique à la religion, du champ politique au champ religieux. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais vous présenter ce fameux paradigme de la cité cultuelle, c'est-à-dire comment arriver à dépasser l'aporie de cette espèce de distinction radicale entre le religieux et le politique, puisque, au fond, je pourrais arrêter ma conférence ici, aussi bien vous-même, monsieur le conseiller d'État, que monsieur Maudet, père, a largement dit ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous voulez, on peut interrompre tout de suite la conférence. Mais laissez-moi au moins prononcer la première partie de la conférence et la deuxième partie, vous avez déjà la clé d'énigme. Excusez-moi. Je voudrais donc distinguer quatre types d'articulation de l'État au champ religieux. Et vous verrez que la question est intéressante parce que dans la même tradition religieuse, nous verrons des pays passer d'un type à l'autre, à commencer bien entendu par cette République de Genève. Ce qui immédiatement relativise l'explication culturaliste par le religieux, parce que si le calvinisme existait de manière anhistorique, de manière atemporelle. Si le calvinisme était un facteur surdéterminant sur le plan politique, eh bien, Genève serait toujours la bibliocratie instaurée par Calvin. Or, aujourd'hui, Genève reste largement une ville protestante qui a séparé les cultes et l'État, et les protestants, les réformés, les calvinistes, ne s'en portent pas plus mal pour autant et ne sont pas moins calvinistes pour autant. Donc on voit très bien que ce caractère évolutif de l'articulation du politique au religieux ruine la prétention explicative du discours culturaliste qui considère que, par exemple, l'islam est porteur d'un sens univoque du politique et que les musulmans, politiquement, sont comme dans des sardines, comme des sardines dans une boîte, tout alignés dans le même sens et partageant la même croyance ou la même huile d'olive. Eh bien non, les choses sont plus compliquées. Premier type idéal, très classique et dans le jargon de la science politique, c'est le type idéal du césaropapisme. Césaropapisme, c'est-à-dire c'est l'empereur, en l'occurrence l'empereur byzantin, puis l'empereur ottoman, qui, en tant que pouvoir politique, absorbe le champ religieux. Alors en réalité, Max Weber nous le montre, et vous savez que j'emprunte évidemment le concept de type idéal à Max Weber, en réalité, le prince, le sultan, l'empereur, doit toujours composer avec une autorité charismatique de type ecclésial, par exemple dans le cas de l'Église orthodoxe. Donc les choses ne sont pas aussi simples pour lui, et l'empereur ottoman, par exemple le sultan ottoman, bien entendu, notamment à partir du moment où il conquiert les lieux saints au XVIe siècle, les lieux saints de l'islam au XVIe siècle, doit évidemment donner des gages aux autorités religieuses, au sens strict du terme, de l'islam. Mais dans le même temps, vous savez que l'Empire ottoman a très largement gouverné les Balkans à travers l'Église orthodoxe. Et l'Église orthodoxe, n'en déplaise à l'historiographie nationaliste grecque ou balkanique aujourd'hui, a été une grande bénéficiaire de la conquête ottomane. Bon. Donc l'empereur ottoman est un empereur au sens politique du terme. Et d'ailleurs, celui que nous appelons Soliman le Magnifique, qui est appelé Soliman le législateur en Turquie, a précisément produit un kanun, un code civil et pénal qui est premier par rapport à la charia. Notamment dans le domaine foncier. Dans le domaine foncier, l'Empire ottoman répondait au code, au canoun de Suleyman le Magnifique ou de Suleyman le Législateur et non pas à la charia. Et bien entendu, les chrétiens étaient jugés selon des tribunaux religieux. Et quand il n'y avait pas de tribunaux chrétiens, ils allaient devant le tribunal de la charia, mais ils étaient jugés en fonction de leurs droits chrétiens. Donc on avait un empire qui n'était pas un empire islamique, qui était un empire politique et plurireligieux et pluriculturel naturellement. Un autre exemple intéressant, c'est l'exemple du Maroc. On parle beaucoup du commandeur des croyants. Il faut savoir d'abord que le concept de commandeur des croyants n'a strictement rien, en tout cas tel qu'il existe au Maroc, d'islamique. En réalité, c'est un pur produit du protectorat français, notamment du maréchal Lyautey, et ensuite d'un certain nombre de constitutionnalistes français, notamment le doyen Vedel, qui ont écrit une constitution entre guillemets islamique, dans le plus pur style de l'invention de la tradition, pour conforter les pouvoirs du roi et précisément lui donner des pouvoirs de type césaropapiste. Et ce qui montre le génie particulier de cette institution monarchique au Maroc, c'est la constitution très libérale de 2011 qui consacre la primauté du roi sur les oulémas au Maroc. Donc là, on a un césaropapisme qui est très largement construit par un maréchal de France et par des constitutionnalistes, des professeurs de droit constitutionnel français. Le césaropapisme, c'est naturellement la grande tentation du royaume de France et du gallicanisme, ou aussi bien de l'anglicanisme du côté britannique. Mais je voudrais revenir sur le cas de la République de Turquie, dont vous savez qu'elle est une république laïque. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de laïque en Turquie n'a rien à voir, ça évidemment les Français ne veulent pas le comprendre, n'a strictement rien à voir avec la République, la laïcité de la République française, c'est même le contraire. Parce que la République, la laïcité de la République turque, pour reproduit le modèle césaropapiste et subordonne l'islam à l'autorité du pouvoir politique par le biais d'une direction des affaires religieuses qui aujourd'hui est rattachée à la fonction de Premier ministre et n'en doutons pas qui, d'ici quelques mois, sera rattachée à la fonction présidentielle directement à la faveur de la présidentialisation du régime. Donc aujourd'hui, la laïcité turque, ça n'est que l'avatar républicain du césaropapisme. Donc voici pour ce premier type idéal. Ensuite, vous avez l'opposé, ou si, l'opposé, non pas au sens turc du terme, l'opposé qui est le type idéal de la séparation, ou plutôt, dit un diplomate français, Pierre Buller, mais qui a été beaucoup cité en Suisse, de la distinction, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, le terme de séparation est peut-être un peu inadéquat à Genève et même d'une certaine manière en France où le pouvoir politique, la République, reconnaît l'existence du religieux. Il a séparé les cultes et l'État, mais il y a différentes formes de reconnaissance du fait religieux. Et la séparation est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus pragmatique que ne le voudraient aujourd'hui certains extrémistes de la laïcité. Vous avez une conception plus agressive de la séparation, c'est celle du Mexique. Le président de la République du Mexique, lorsqu'il reçoit le pape, ne peut pas rentrer dans la cathédrale de Mexico. C'est, constitutionnellement, ça lui est interdit. En tout cas, c'était le cas. Je ne sais pas, la Constitution a peut-être évolué dans le contexte du multipartisme. J'avoue mon ignorance sur ce point, je ne suis pas allé vérifier. Mais à l'époque du PRI, à l'époque du Parti révolutionnaire institutionnel, c'était une séparation beaucoup plus agressive. Évidemment héritière de la révolution mexicaine qui a été une grande dévoreuse de curés. Ce que l'on ignore plus, ou ce que l'on feint d'oublier, c'est que les États-Unis ne sont pas un parangon de la confusion entre le politique et le religieux, comme on le croit souvent, notamment au-delà de la frontière. Bien au contraire, l'article 6 de la Constitution de 1787 et le Bill of Rights de 1791 reconnaît la séparation de l'État et des religions, même si le fait religieux est admis. Et Jefferson parlait de construire un mur de séparation. Donc les États-Unis, en réalité, illustrent bien ce type idéal de la séparation, même si tout un courant providentialiste a essayé de rattacher la fondation des États-Unis moins aux pères fondateurs, Washington, Jefferson, etc., qu'à ces fameux pèlerins venus de Nouvelle-Angleterre, du Mayflower, etc., qui sont venus en Nouvelle-Angleterre pour fonder la cité de Dieu qu'ils estimaient ne plus pouvoir fonder dans l'Angleterre qu'ils fuyaient. Bon. Mais là, c'est une relecture de l'histoire qui est parfaitement contesté et contestable. Le troisième type idéal, c'est le type idéal de l'État théocratique. Alors, d'une certaine manière, le calvinisme de Calvin, la Genève de Calvin, sauf qu'il n'y avait pas de prêtre. Donc le terme de théocratie est contestable, et c'est la raison pour laquelle on a parfois préféré celui de bibliocratie, ou la Nouvelle-Angleterre des pèlerins, qui, avant la constitution des États-Unis, ont instauré effectivement des régimes soit bibliocratique, soit théocratique. Le canton de Fribourg, la République, le projet de République chrétienne de Fribourg à la fin du XIXe siècle est un cas assez intéressant, même si le terme de théocratie est un peu exagéré. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler que le modèle des fondateurs de cette République chrétienne de Fribourg, le modèle était le modèle équatorien du président Moreno. Donc on voit déjà une circulation à l'échelle globale des modèles religieux. Mais bien entendu, l'archétype, si je puis dire, du type idéal, c'est le Tibet, hein, où là, vous avez clairement une théocratie, sauf bien sûr que cette théocratie a été annexée peut-être par une autre théocratie, celle de la République populaire de Chine, mais dans un style différent. Ce à quoi je veux en venir ici, c'est que contrairement à ce que l'on lit à longueur de colonne, l'islam ne correspond absolument pas à ce modèle, à ce type idéal de l'État théocratique. L'islam reconnaît la séparation de la religion dîne et de l'État d'olat. Et là, je crois qu'il faut le marteler un petit peu à la manière des professeurs des madrasas, des écoles coraniques, éventuellement en tapant sur le doigt des élèves journalistes, parce que contrairement à ce que nous disent les médias, il y a bel et bien séparation, différenciation du champ politique et du champ religieux dans la pensée islamique. C'est un courant tout à fait minoritaire, le courant notamment illustré par le grand théologien Ibn Taymiyyah au XIIIe siècle, et que reprend aujourd'hui le courant wahhabite, qui prétend soumettre et confondre le politique et le religieux. Mais c'est un courant qui est tout à fait minoritaire. Et la grande tradition philosophique et théologique de l'islam reconnaît bien cette distinction entre dîn et dolat. Là, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point pour aller à contre-courant de la vulgate médiatique. Le quatrième point, c'est le type de l'État confessionnel, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, qui généralement reconnaît une religion dominante, tout en reconnaissant le pluralisme confessionnel. Un État confessionnel qui est né du premier âge moderne, donc disons de la Réforme et de la Renaissance européenne au XVIe siècle, et un État confessionnel asymétrique qui progressivement se démocratise et met sur un pied d'égalité l'ensemble des confessions religieuses. C'est un petit peu le cas, par exemple, aujourd'hui, dans un contexte incontestablement démocratique, des Pays-Bas ou de l'Allemagne fédérale. Mais n'oublions pas que le catholicisme a été, jusque dans la première moitié du XIXe siècle, aux Pays-Bas, une religion tout à fait subalterne. Les catholiques n'avaient pas le droit, par exemple, de faire de procession dans la rue, enfin dans l'espace public. Et n'oublions pas le Kulturkampf à la fin du XIXe siècle entre l'État bismarckien ou post-bismarckien et les catholiques. Bon. Aujourd'hui, nous avons maints États confessionnels qui ne sont pas franchement démocratiques. Bon, la Grèce, sur ce plan, ne l'est que depuis peu. C'est sous la pression de l'Union européenne que la Grèce a renoncé, par exemple, à mentionner l'appartenance religieuse sur la carte d'identité. Et vous savez qu'aujourd'hui, toute ressemblance avec un pays proche est le pur fruit du hasard, il est impossible de construire une mosquée en Grèce, en tout cas à Athènes ou dans les grandes villes grecques, alors même qu'il y a une minorité musulmane non négligeable qui a survécu au transfert, à l'échange de population de 1923. La Russie de Poutine est clairement un État confessionnel asymétrique. Il ne fait pas très bon être musulman aujourd'hui en Russie. Israël est un État confessionnel asymétrique. La Turquie également, lorsque vous êtes turc, sunnite de rite hanéfite et turcophone de naissance, vous êtes quand même un peu plus turc que si vous êtes, par exemple, kurde, sunnite de rite chafi, et a fortiori, si vous êtes turc et juif ou turc et chrétien. Et sachez, par exemple, que l'État turc prétendument laïque, en fonction du traité de Lausanne, identifie les minorités religieuses prétendument pour assurer leur éducation, leur liberté religieuse, et notamment dans le domaine de l'éducation. Mais concrètement, ça se traduit par des numéros propres, des numéros particuliers de séries de passeports. Et quand vous êtes turc, que vous arrivez à l'aéroport, le policier sait exactement si vous êtes juif, arménien, grec ou sunnite. Bon. L'Iran, est également une république confessionnelle, puisque seul un chiite peut devenir président de la République et a fortiori guide de la Révolution. Mais attention, la République islamique d'Iran est un régime de pluralisme confessionnel, puisque si vous êtes juif ou si vous êtes chrétien ou zoroastrien, vous pouvez pratiquer votre religion, et vous avez même une représentation parlementaire qui, démographiquement, est une surreprésentation parlementaire, même si, naturellement, politiquement, ces députés doivent bien se tenir. Donc nous avons ces quatre types idéaux, et je le répète, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des religions peuvent passer d'un type idéal à un autre. Donc ces types idéaux sont, le rapport du politique, du religieux au politique est évolutif, et encore une fois, il n'y a aucune, permettrez-vous ce terme, aucune prédestination dans les rapports entre une religion donnée et un État. Alors, comment sortir, je ne vérifie pas mes emails, mais l'heure, sortir de ce paradigme très binaire, d'un côté la religion, de l'autre la politique, comment ça s'arrange, etc. Je crois que les choses sont beaucoup plus compliquées, comme nous avons commencé à le comprendre avec les deux interventions liminaires. Pour ma part, je propose donc ce paradigme de la cité cultuelle pour insister sur le fait que le fait religieux est constitutif de la formation de la cité politique. Le fait religieux est constitutif du fait politique. Et bien entendu, la distinction classique entre religion et politique ne nous aide pas à le comprendre. Du point de vue de la sociologie ou du point de vue de l'histoire, la figure tutélaire de la cité cultuelle, c'est bien sûr Fustel de Coulanges. Mais Fustel de Coulanges a un petit peu vieilli sur le plan scientifique, parce qu'au fond, si je le lis bien, il imagine que le fait religieux est antérieur et que c'est du fait religieux que découle le politique. Personnellement, je préfère raisonner en termes d'interaction mutuelle généralisée. L'expression est de Otto Bauer, il définissait ainsi, marxiste, austro-marxiste, il définissait ainsi la nation, mais je crois que le terme s'applique bien à notre propos. Et il faut bien voir que si la religion est la matrice du politique, réciproquement, le politique est la matrice de la religion. Prenons des exemples qui nous sont très proches. Être calviniste dans un contexte de séparation, dans la Genève du début du millénaire, c'est certainement très différent que d'être calviniste au début du XIXe siècle, et a fortiori au XVIIIe siècle ou au XVIe siècle. Donc la loi de séparation a transformé le champ religieux lui-même. Il en est de même, bien entendu, du catholicisme en France. La laïcité a profondément transformé le champ religieux, et d'ailleurs rare aujourd'hui seraient les catholiques français qui souhaiteraient revenir à un régime ultramontain ou gallican, où les catholiques français sont aujourd'hui entre guillemets naturellement séparationnistes et laïcs. Donc véritablement, il faut réfléchir en termes de combinatoire. Alors, comme les chercheurs sont des gens ennuyeux et qui cherchent toujours à couper les cheveux en quatre, je voudrais effectivement les couper en quatre et même en cinq, si j'ai le temps. Je voudrais soulever quatre ou cinq remarques, quatre ou cinq éléments de cette analyse en termes de combinatoire du religieux et du politique, cinq facettes, si vous voulez, de ce que je nomme la cité cultuelle. Première idée, là aussi, je suis navré de répéter mes prédécesseurs, la différenciation du politique par rapport au religieux n'est pas le produit univoque de la sécularisation de la société. Ce n'est pas la sécularisation de la société qui provoque la sécularisation du politique, voire la séparation. Très curieusement, c'est le religieux lui-même qui est un élément de sécularisation. Alors, ça paraît extrêmement paradoxal, mais à tout seigneur, tout honneur, si je puis dire, l'Église catholique, le Saint-Siège, en est un très bel exemple. Le Saint-Siège, à partir des grandes réformes grégoriennes des 11e, 12e siècles, s'institutionnalise en tant qu'État, et c'est de toute l'ingénierie étatique, notamment à travers toutes ces régularités écrites, pour reprendre une expression célèbre, c'est cette institutionnalisation de l'appareil étatique du Saint-Siège qui va être la matrice de l'État moderne, tel que, par exemple, va l'ébaucher un Machiavel dans son célèbre Prince. Bon. Donc le fait est absolument central, c'est bel et bien le Saint-Siège qui a été la matrice de l'État moderne. Un autre exemple encore plus paradoxal, en tout cas pour nous, c'est la République islamique d'Iran. Pour nous, la République islamique d'Iran est un régime théocratique, régime des mollahs, régime des ayatollahs. C'est un contresens absolu. D'abord, le haut clergé n'était pas pour la révolution en 79. La révolution est devenue inévitable pour des raisons sociales, politiques, etc. Mais le haut clergé, les ayatollahs, les grandes sources d'imitation, étaient tout à fait prêts à un compromis, à un accord avec la monarchie et ne souhaitaient pas le renversement de la monarchie. D'ailleurs, contrairement à une mauvaise légende, les Pahlavis ont choyé le chiisme dans lequel, précisément, ils voyaient une religion nationale et un élément, on dirait aujourd'hui, de soft power dans l'ensemble de la région et un élément également de consolidation du corps politique et social, un élément d'unification culturelle et politique d'un Iran qui est un Iran multiethnique et à bien des égards un Iran multiconfessionnel. Donc l'ayatollah Khomeini était un outsider dans le champ cléricalo-politique. Bon. Et quand vous regardez la République islamique d'Iran, elle est une république qu'il faut prendre au sens, qu'il faut prendre au sérieux. Et la République islamique d'Iran est habitée par une tension entre une légitimité de type religieux, incarnée par le guide de la Révolution, mais le guide de la Révolution est élu par une assemblée des experts qui est elle-même élue au suffrage universel. Donc le guide de la Révolution est élu au suffrage indirect. Donc lui-même n'est pas désigné par Dieu, contrairement au pape, pas par le troisième homme, par l'Esprit Saint. Le guide de la Révolution est élu. Il est élu par tous les Iraniens, y compris d'ailleurs, paradoxalement, par les chrétiens, les juifs et les zoroastriens, s'ils veulent se déplacer. Soit dit en passant, le guide de la Révolution est élu par les femmes. Les femmes votent en Iran. Et Khomeini n'a pas remis en cause le droit de vote des femmes. Le président de la République est élu au suffrage universel, le Parlement est élu au suffrage universel et les conseils municipaux sont élus au suffrage universel. Donc il s'agit d'une véritable République qui n'est absolument pas dominée par un dictateur, le guide de la Révolution, comme on le lit souvent dans les médias. Le guide de la Révolution est un primus inter pares et le constituant de 79 s'est échiné, sans doute avait-il très bien lu Montesquieu, s'est échiné à multiplier les checks and balances, les contre-pouvoirs, et sans mauvais jeu de mots, tous les détenteurs du pouvoir des différentes institutions se tiennent par la barbichette. Le problème de l'Iran, ça n'est pas l'excès de pouvoir, c'est l'incapacité de prendre des décisions, parce que entre le Parlement, le président de la République, le Conseil des gardiens de la Constitution, etc., vous avez toute une série de checks and balances qui rendent des choses extrêmement compliquées. Et les négociateurs de Genève et de Lausanne s'en sont rendus compte pendant toute la question du nucléaire. Mais le plus intéressant, c'est qu'en 1988, Ali Khamenei, alors président de la République, dans un prêche du vendredi, insiste sur la primauté des devoirs religieux sur les devoirs politiques. Et l'ayatollah Khomeini, à la fin de sa vie, guide de la Révolution, lui écrit en lui disant « Monsieur l'Hujjat al-Islam, vous êtes dans l'erreur, c'est la raison de l'État qui doit l'emporter sur les devoirs religieux, parce que notre État est un État islamique et qu'il faut garantir l'État islamique, la survie de l'État islamique, etc. » Et le débat, naturellement, dans le conflit, dans le contexte du conflit avec l'Irak, etc., était tout sauf théologique. Il avait des implications politiques extrêmement directes. Bon. Et c'est à la suite de cette missive qu'est constitué un conseil du discernement de la raison d'État qui est précisément chargé de rendre les grands arbitrages. Donc, au fond, vous avez une sécularisation du pouvoir politique qui a été véhiculée par une république islamique. Et ça, c'est le grand paradoxe de l'Iran. Deuxième idée, nous parlions tout à l'heure des logiques intrinsèques de la religion. Logiques intrinsèques de la religion dont on peut dire, dont on pourrait penser qu'elles vont causer un gros problème à la cité politique. Parce qu'après tout, vous avez des gens qui se réfèrent à des logiques, qui se réfèrent à une transcendance et qui risquent de brouiller le jeu politique. Or, en réalité, c'est bel et bien cette logique intrinsèque ou ces logiques intrinsèques de la religion. Et c'est notamment l'invocation d'une durée religieuse qui est irréductible à la durée courte ou moins courte du politique, qui fait que très souvent, le compromis est possible entre les autorités politiques et les croyants. Au fond, c'est bel et bien le cas de la séparation, notamment à Genève, hein, où vous avez des tas de penseurs ou de théologiens calvinistes qui sont pour la séparation et qui ne s'y opposent absolument pas, précisément parce qu'ils sont mus par des logiques intrinsèques de leur foi. Un autre exemple intéressant, c'est le Sénégal, où, après une période de confrontation entre le colonisateur français et les confréries, et notamment la confrérie des Mourides de Cheikh Amadou Bamba, un accord se crée. Et cet accord, il est précisément possible, c'est pas de grands compromis historiques. Ironie de l'histoire, d'ailleurs, c'est grosso modo en 1905, c'est-à-dire au moment où la République française promeut la séparation des cultes et de l'État en métropole, elle conclut de manière implicite un grand compromis avec des confréries islamiques. Bon. Et Cheikh Amadou Bamba, lui, pour lui, l'important, c'est la permanence de l'islam. Et c'est de sauvegarder l'islam dans cette situation d'occupation étrangère. Pour le colonisateur français, ce qui compte, c'est la paix sociale et la capacité politique de dissocier les croyants musulmans de l'appel au djihad que ne manquera pas de lancer le sultan ottoman, qui est également calife, lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Bon. Donc il y a une espèce d'accord où le colonisateur français reconnaît la confrérie des Mourides, lui concède des terres pour la culture de l'arachide, il n'y a pas de petit profit, et en réciprocité, les Mourides acceptent de nourrir l'effort de guerre, notamment de recruter des combattants pour la guerre de 14-18, et bien entendu de ne pas suivre le djihad. Donc c'est bel et bien la disjonction entre le temps religieux et le temps politique, en l'occurrence le temps colonial, qui permet ce compromis entre les confréries et l'islam, compromis qui est toujours à la base de la stabilité de la République sénégalaise. Troisième idée, c'est la tension entre le charisme, y compris le charisme au sens religieux, et la domination rationnelle légale. Et à nouveau, je fais référence à Max Weber, hein, son type idéal de l'autorité charismatique d'un côté, et d'autre part, de l'autorité bureaucratique, rationnelle, légale, que l'on retrouve aux yeux de Max Weber dans le capitalisme. Alors, de grands historiens, je vais à nouveau citer Michel de Certeau, ont très bien montré le lien qu'il y avait dans le catholicisme du premier âge moderne, 16e, 17e siècle, entre le mysticisme et la domination rationnelle légale. Ignace de Loyola était un mystique. À un moment donné, même, il a eu des gros problèmes judiciaires avec l'Église catholique. Et simultanément, les jésuites sont indissociables d'une grande institution bureaucratique, le Collège jésuite, et ont été un grand promoteur de la bureaucratisation de l'enseignement et bien au-delà de l'enseignement religieux. Tous les grands souverains du XVIe siècle, Philippe II d'Espagne, les souverains Suleyman le Magnifique dans l'Empire ottoman, le fondateur de l'Empire morol, le fondateur de l'Empire safavide, étaient de grands bâtisseurs et de grands mystiques. Ils étaient des millénaristes. Et la globalisation du XVIe siècle a été une globalisation qui s'est vécue à travers l'échange marchand, mais également à travers une représentation millénariste du monde. Hein, sur le mode de l'Apocalypse dans le cas chrétien, mais sur d'autres modes dans le cas des empires islamiques. Les jansénistes en France sont intéressants. Les jansénistes, et notamment les convulsionnaires jansénistes au début du XVIIIe siècle, qui connaissaient donc la transe, ont été, je fais référence à un grand livre de Catherine Maire, ont été en quelque sorte les inventeurs de l'idée de la nation. Et la représentation parlementaire. Donc à nouveau, on voit mysticisme et construction nationale de type bureaucratique, rationnelle, légale, aller de pair. Et l'abbé Seyès, grand penseur et grand acteur de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, sera très acoquiné avec les rameaux les plus mystiques de ces fameux jansénistes. Donc il faut voir que le charisme religieux et l'autorité rationnelle légale peuvent aller de pair. Et d'ailleurs, l'Église catholique nous en donne un bon exemple. Lorsqu'elle instruit le procès au sens le plus bureaucratique du terme d'un saint, elle le fait sur un mode tout à fait bureaucratique, avec là aussi force papier, force mise en scène bureaucratique de la justice pontificale, avocat du diable, etc. Tout cela pour consigner bureaucratiquement un charisme, celui du saint. Alors cette tension est intéressante parce qu'elle nous rappelle que la bureaucratisation religieuse va de pair avec l'universalisation de l'État-nation bureaucratique et notamment par l'universalisation du modèle ecclésial. Le modèle ecclésial catholique, il est très largement repris, bien entendu il est réinventé, mais il est très largement repris par les églises réformées. Bon, après, vous avez des rameaux qui le contestent, bien entendu, comme par exemple les puritains, etc. Mais fondamentalement, le modèle ecclésial est repris par la réforme. Et on voit ce modèle ecclésial essaimer en dehors du monde chrétien. Par exemple, l'hindouisme en Inde a tendance à s'institutionnaliser sur un mode ecclésial pour relever le défi de la pénétration des missionnaires chrétiens. Et l'on voit le chiisme iranien connaître une même institutionnalisation au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, l'Église catholique, par exemple, continue de traiter avec un système d'État, notamment par le biais des nonces apostoliques. Aujourd'hui, on voit très bien comment les partis islamiques sont des partis nationalistes, absolument incapables de dépasser le cadre de l'État-nation pour épouser, par exemple, ou porter politiquement la grande cause de l'Oumma. Tous les partis islamiques sont des partis nations, voire des partis nationalistes, à commencer par le Hezbollah libanais, par le Hamas palestinien, mais on peut en dire autant de Ennahda en Tunisie ou des frères musulmans en Égypte. Et la République islamique elle-même est quand même passée de Trotsky à Staline, si je puis dire, c'est-à-dire du rêve d'une révolution islamique dans tous les pays à une révolution islamique nationale très très rapidement, notamment à partir de la guerre contre l'Irak. Ce qui, bien entendu, conduit à la généralisation de la définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, sur laquelle je n'insiste pas, puisque à la chaire Yves Oltramar, nous avions tenu un colloque au mois de décembre sur cette question. Le quatrième point, et j'en finirai par là, rassurez-vous, c'est de voir comment, très concrètement, les rituels religieux peuvent définir la subjectivité politique. Vous savez que Michel Foucault, il a été très contesté, mais de manière très injuste pour cela, a parlé de spiritualité politique, non seulement à propos de la République islamique d'Iran, mais également à propos de Solidarność en Pologne. Bon. Et effectivement, nous voyons comment des rituels religieux peuvent être des rituels civiques. Exemple des processions, dans le petit livre que vous avez sur la table, il y a un très bel article de l'historienne Claire Jude de la Rivière qui montre comment la procession à Venise était une procession civique qui permettait de mettre en ordre, civiquement parlant, la cité, et notamment de hiérarchiser ou de contester les hiérarchies sociales et politiques au sein de la République de Venise. Alors on pourrait multiplier les exemples. Le pèlerinage, par exemple, le pèlerinage de la Vierge Guadalupe au Mexique est indissociable de l'idée nationale dans ce pays. Les grandes manifestations de Solidarność, du côté du catholicisme, ou les grandes manifestations contre le Shah en Iran empruntaient très largement à une théâtralité, à une dramaturgie de type religieuse, par exemple du côté chiite, la bataille de Kerbela. Je voudrais peut-être simplement insister sur le fait que cette contribution du fait religieux à la subjectivité, ou dirait Michel Foucault, à la subjectivation politique, c'est-à-dire à la constitution d'un sujet moral et politique, au fond, elle s'exerce jour après jour, par ce travail de Veralltäglichung, disait Max Weber. On pourrait traduire ça l'horrible néologisme de quotidianisation. Hein, quand on parle, par exemple, des méthodistes, la méthode, la conduite de vie. Bon, c'est à travers ces conduites de vie en tant que conduite religieuse que s'effectue un grand travail de discipline sociale qui est, nous disent les historiens, est indissociable de la formation de l'État confessionnel moderne après la réforme dans l'Europe, par exemple du traité de Westphalie, etc., et un État confessionnel dont nous ne sommes pas sortis. Et je crois que là, il y a une contribution de la religion. Je parlais tout à l'heure de dignité sociale, mais on peut dire également de dignité politique et de discipline politique qui est importante et qui s'effectue au fond au quotidien, sans tambour, sans bruit ni tapage, sans tambour ni trompette, celle de Jéricho. Et je crois que c'est précisément ce caractère quotidien, ce caractère presque grisâtre de l'existence quotidienne qui nous empêche souvent de bien poser la question politique, parce qu'il y a les grands événements, des virtuoses et parfois des virtuoses sinistres de la religion, hein, qui par exemple ceux qui commettent des attentats au nom d'une conception extrémiste de la religion, qui tiennent le haut du pavé médiatique, et on pourrait faire allusion à tel ou tel conseil dont parle la presse aujourd'hui à Genève, mais au fond, cette écume de l'actualité ne rend pas forcément justice à la contribution silencieuse. Et je ne veux dire ni pour le pire ni pour le meilleur, pour garder une neutralité axiologique, mais cette contribution silencieuse de la religion à la subjectivité politique. Alors, que conclure ? Quatre choses. Premièrement, que les voies du Seigneur sont décidément impénétrables pour comprendre les relations entre César et Dieu, mais je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit en la matière. Que deuxièmement, toute essentialisation du religieux sur un mode culturaliste et identitaire est scientifiquement inepte. C'est-à-dire que du point de vue des sciences sociales, 99% du débat public, je ne veux pas dire en Suisse parce que je ne prétends pas le connaître suffisamment, mais en tout cas en France, est complètement inepte. Et quand vous êtes un chercheur en sciences sociales, que vous ouvrez la radio, la télévision ou votre journal, vous avez vraiment envie de pleurer. Et vous demandez vraiment pourquoi le contribuable français paye des chercheurs ou des professeurs d'université dont les travaux ne sont absolument pas restitués, si vous voulez, fût-ce d'une manière critique, hein, dans le débat public ou dans le débat politique. Troisièmement, nous pouvons conclure que les rapports entre religion et politique répondent à un principe historique de contingence et ils sont évolutifs. C'est-à-dire que l'islam, naturellement, peut parfaitement s'accommoder de la séparation, de la République, tout comme l'a fait une église catholique, voire un calvinisme, je ne peux pas me prononcer sur la question, qui n'était absolument pas prédestiné à cela. Et c'est Paul Venn qui dit que le christianisme était la religion la moins adaptée adapté, si je puis dire, à l'idée de la laïcité, alors que le culte des Romains était une laïcité avant la lettre, en quelque sorte, et en tout cas un régime pluriconfessionnel. Donc les religions sont des réalités évolutives dans leur rapport à la politique, et toute crispation identitaire est tout à fait, qu'elle soit celle des croyants ou celle des observateurs des croyants, est tout à fait déplacée. Et puis enfin, et j'espère vous avoir convaincu sur ce plan, il n'y a pas entre la religion et la politique un jeu à somme nulle. En effet, Dieu et César sont comme des larrons en foire, s'ils veulent bien me pardonner cette marque d'irrespect à leur égard. Je vous remercie de votre patience.
Voilà, chers amis, chers auditeurs, je reprends ma liberté puisque le fils a disparu. Il ne reste que l'esprit.
Il ne reste que l'esprit.
C'était un exposé très très riche, vraiment très 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 riche, très nuancé, j'allais dire même un peu compliqué, un peu complexe, mais avec beaucoup de nuances, beaucoup de subtilités. Alors, dans les médias, je demanderais aux personnes qui auraient des questions, je dirais, de compréhension, au fond, pour qu'après les quelques, peut-être deux, trois ou quatre questions de compréhension, on puisse, si c'est possible, si vous êtes d'accord, ben je crois bien, entrer dans le vif du sujet. Et s'il y a parmi vous des personnes, je dirais, agressives, contestataires, en désaccord total avec M. Bayard, quel se nomme, quel se présente, on coupera les têtes après. Alors, est-ce qu'il y a des questions
Un point d'ordre. Aucune question ou aucune remarque n'est stupide, il n'y a que les réponses qui puissent l'être. Donc, sentez-vous très à l'aise. Madame a une question.
Le terme de polysémique, je n'ai pas très bien compris.
Oui, polysémique, en fait, je me référais implicitement à la linguistique, notamment de Saussure. Donc, c'est effectivement un gros mot pour dire une chose assez, assez banale. Ça veut dire que chaque mot a plusieurs sens. Bon. Et que vous pouvez que tous les mots que nous utilisons peuvent avoir simultanément plusieurs sens, et ce qui naturellement peut créer des conditions de malentendus, plus ou moins opératoires, plus ou moins fonctionnelles. Mais je crois qu'il faut aller au-delà et prendre la linguistique de Saussure très au sérieux, y compris dans ses héritages, hein, Wittgenstein, etc., ou la philosophie pragmatique ou analytique anglaise, c'est de voir que un texte ou une partition existe certes parce qu'un compositeur ou un écrivain l'a écrite, mais n'existe aussi que par la manière dont ce texte ou dont cette pièce de musique sont entendues ou lues. Par exemple, cette conférence, elle existe telle que je l'ai prononcée, telle que je l'ai conçue avec mes pattes de mouche, mais en réalité, elle n'existe que par la manière dont vous l'avez entendu. Donc, une part d'entre vous, vous avez trouvé ça carrément rasoir, une autre part, vous avez peut-être trouvé qu'il y avait deux ou trois idées intéressantes, etc., etc. Et il est bien entendu que cette conférence, elle existe parce que nous sommes dans cette très belle salle, très généreusement accueillie, donc la conférence existe, le conférencier existe, mais en réalité, elle n'existe qu'à travers chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'énonciation. Un texte, une conférence, bon, c'est pareil de manière plus prosaïque, hein. Vous prenez une bouteille de vin, elle existe, chacun va la boire ou ne pas la boire, et si vous faites parler les différentes personnes de la bouteille de vin, elles vont avoir des mots très différents, et puis les uns vont trouver ça très bon, les autres assez décevant, etc., parce qu'évidemment le buveur, il a ses propres goûts, il a sa propre expérience, et s'il a bu juste avant un très grand cru bordelais, bon, bah, il trouvera peut-être que la bouteille est assez décevante, etc. Donc voilà, c'est une idée très, très, très banale, au fond, qu'effectivement j'ai déguisée d'un terme inutilement compliqué.
Une question pour la part, monsieur. Je vous remercie pour votre exposé extrêmement dense, effectivement. J'avais une question concernant ce que vous avez dit sur l'essentialisation de la religion, c'est-à-dire le fait qu'on tend à assigner à une religion une certaine prédisposition à l'action marquée. Donc on entendait bien dans votre exposé le fait qu'aujourd'hui, dans le monde médiatique, on tend à assigner à l'islam certaines propositions, notamment sur le rapport aux politiques. J'étais parfois, toutefois un tout petit peu surpris, à certains moments dans votre exposé, vous-même, vous attribuez des caractéristiques fondamentales aux religions en disant par exemple que du point de vue du rituel, elles pouvaient être utiles pour la cité. Et du coup, si on attribue des caractéristiques stables à la religion, comme celle des rituels, on pourrait remonter sur les croyances et attribuer à certaines croyances en fait des propriétés qui sont plus lourdes. Vous-même, à un moment dans votre exposé, vous avez dit le véritable sens du djihad, c'est... Donc vous avez tranché, en fait, vous avez calibré le sens d'une doctrine et vous nous avez expliqué quel était son sens, vous l'avez arrêté par rapport à une communauté d'interprétation. Donc ma question c'était, à quel moment faut-il en fait faire varier les contenus et puis les rites, et à quel moment faut-il les durcir? Voilà.
Alors, je ne sais pas si je peux répondre vraiment à la question telle que vous la posez, mais je voudrais préciser mon propos. Comme toujours, quand on fait une conférence, on parle sans doute trop vite et on simplifie un peu trop les choses. Quand, par exemple, je disais que le véritable sens du djihad, c'était le combat par rapport à soi-même, etc., je ne sais plus si je l'ai dit ou non, mais en tout cas, j'aurais dû le dire, c'est le véritable sens pour la plupart des croyants. Moi, personnellement, je n'ai qu'une conception assez élusive du djihad, à vrai dire. Mais pour nombre de croyants, si vous voulez, même, enfin, d'ailleurs, dans le langage habituel, on parlera du grand djihad. Le grand djihad, c'est le combat que le croyant se livre à lui-même, voyez. Mais je maintiens ma position. Je crois que, fondamentalement, les représentations, les notions, les concepts religieux sont sujets à énonciation, c'est-à-dire qu'ils sont interprétés par les croyants de manière, pardonnez-moi, polysémique, de manière plurielle, bon, et contradictoire souvent. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel je veux insister. En ce qui concerne les rituels sont des pratiques. Donc ce qui compte, à mon avis, ce n'est effectivement pas de se référer aux livres sacrés, aux livres saints. Et je sais que je frôle le blasphème, notamment du point de vue islamique, bon, parce que les croyants ont une conception énonciative de ce texte. Et ils le lisent toujours, ou ils l'entendent, dans un contexte historique, familial, etc., personnel, tout à fait particulier. Donc je pense que nous ne pouvons pas déduire des textes, aussi sacrés soient-ils, des comportements, parce que ces comportements sont datés, ils sont pluriels, ils sont sujets à interprétation, etc. Et ça, on le voit aussi bien pour l'islam que pour le christianisme. Moi, l'exemple que je prends toujours, en l'occurrence, pour équilibrer, si vous voulez, avec l'islam, les jeunes catholiques français étaient assez fréquemment, adulaient assez fréquemment Jean-Paul II. Un Jean-Paul II qui condamnait la contraception et les unions avant le mariage. Et dans la réalité sociologique, ces jeunes catholiques pratiquent très largement la contraception et le concubinage, et ce qui ne retire rien à la sincérité de leur foi. Mais on voit très bien que les gens bricolent, les gens, bricolent avec les textes. Hein. Donc la seule manière de nous en tirer, c'est de partir des pratiques. Ce que font réellement les gens. Et le terme de pratique religieuse, au fond, on doit le prendre au sens vraiment littéral du terme. Bon. Alors, quand vous faites un rituel, ce rituel, il est historiquement situé et politiquement situé. Par exemple, il y a un grand livre de Richard Trexler sur la cité de Florence, hein, et notamment sur le rôle des processions dans la ville de Florence au moment de la Renaissance. Et ces processions, qui étaient des processions catholiques, étaient en fait chargées d'un sens religieux, mais ce sens religieux était sujet à énonciation. Les gens ne l'interprétaient pas de la même manière. Et c'est tout comme dans la Venise étudiée par Claire Jude de la Rivière, ces processions étaient des moments de tension, étaient des moments de négociation entre les jeunes, entre les corporations, entre les familles notabilières, pour délimiter les lignes de partage de la hiérarchie sociale. Donc ce qui compte, c'est d'analyser une pratique concrète, en l'occurrence religieuse, et d'en démêler les sens, les orientations contradictoires. Vous voyez, sur le plan de... Alors, après, moi je crois que ma réponse à votre question à la fin de votre intervention, elle est dictée par cette remarque. C'est-à-dire que le ramadan, par exemple, la pratique du jeûne aujourd'hui est interprétée de manière extrêmement différente par les musulmans. Et d'ailleurs est aussi reçue par la société, en l'occurrence française, puisqu'elle n'est plus familière, non musulmane, si je puis dire, de manière très différente. Beaucoup de gens aujourd'hui, on met l'accent sur les tensions autour du halal, autour de... Mais moi, ce qui me frappe, en tant quand même que malheureusement assez vieux, assez vieil observateur de la société française, c'est à quel point la société française s'est accommodée de la pratique du jeûne musulman et de manière très pacifiée. C'est-à-dire que là aussi, il y a l'écume médiatique, mais dans la réalité du travail, dans la réalité de la société réelle, il y a une reconnaissance de la pratique du ramadan et une tolérance de la pratique du ramadan qui est beaucoup plus large. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, il y a une semaine environ, un sondage qui montre que la tolérance des Français a considérablement progressé par rapport aux faits religieux et par rapport à la sexualité, etc. Constatation établie par une enquête sociologique tout à fait sérieuse et rigoureuse, qui est complètement dissonante par rapport à l'état d'esprit général des médias. Donc je crois que dans la société française, je ne suis pas certain que la question se poserait dans les profondeurs de la société française de la manière dont vous la poseriez, si j'ai bien entendu, parce qu'on est un peu loin de l'un de l'autre. Mais je peux revenir éventuellement sur la question si vous le souhaitez.
Madame, oui. Si. Et à un moment donné, j'ai relevé que quand vous dites « l'islam n'existe pas », les musulmans existent. Si vous pouviez élaborer davantage, si moi je comprends votre remarque, c'est puisque il y a des musulmans, ils continuent à l'être, ça fait perdurer l'islam, et si des gens cessent d'y croire, l'islam disparaîtrait. Donc, si c'est la bonne compréhension que j'ai, cela veut dire que si on cessait de terroriser les gens islamisés, ils quitteraient l'islam et l'islam disparaîtrait.
Ah non, je ne pense pas.
Non, alors c'est pour ça que je souhaiterais que vous élaboriez davantage quel est le sens.
Bien sûr. Alors deux points. Une remarque empirique, parce que moi je suis contrairement aux apparences, je peux parfois avoir du bon sens. Bon, quand des amis musulmans viennent manger à la maison. J'ai du bon sens, mais je suis assez distrait. C'est toujours un gros problème pour moi. C'est un gros problème pour moi parce que j'ai des amis musulmans qui boivent de l'alcool et d'autres qui n'en boivent pas. J'ai des amis musulmans qui mangent du porc et d'autres qui n'en mangent pas. J'ai des amis musulmans qui ne font rien des deux. J'ai des amis musulmans qui boivent de l'alcool, mais quand même, ils hésitent de le faire pendant le ramadan, en tout cas pendant les premiers jours du ramadan, etc., etc. Un jour, j'étais en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, et je faisais un terrain dans la région phosphatière, où il y a des grands mouvements sociaux, etc., et j'étais avec des syndicalistes. Et c'est dans une région où on parle toujours de manière ironique du parti des buveurs de bière. Bon. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont très nardins. Ouais, bon. Donc, discussion. Je dois vous dire que ces gens m'ont un peu effrayé parce que moi-même, je bois de l'alcool. Mais là, j'avais trouvé mon maître parce que ça commençait quand même très tôt et à rythme très soutenu. Donc là, j'ai quand même compris ce que c'était que le parti de la bière. Et alors, le soir, la table était jonchée de bouteilles, de cadavres de bouteilles. de la bière, du mauvais vin, enfin bon. Et un des syndicalistes, passablement aviné, se met à m'expliquer que tout cela n'est pas péché parce que Allah a, alors il y a un terme en arabe que j'ai oublié, n'a pas interdit l'alcool, mais le déconseille. Bon, donc c'est peut-être pas bien, mais c'est quand même pas un péché majeur. Et à ce moment, le leader syndicaliste, qui est un peu en plus intelligent, le Lech Walesa tunisien, tape du poing sur la table, les bouteilles se soulèvent, parce que c'est un homme assez costaud, et il dit, mais tu es un imbécile, tu penses bien que si le grand Dieu déconseille de boire de l'alcool, c'est qu'il l'interdit, et hop, il se jette une grande rasade de bière pour ponctuer sa fatwa. Bon. Donc si vous voulez, pour moi, l'islam, c'est aussi ça. Et puis d'un autre côté, bien entendu, c'est une intimité religieuse, parfois une très très grande spiritualité. Donc c'est aussi la raison pour laquelle je pense que, bah oui, il y a des musulmans qui sont musulmans, tout à fait indépendamment de la coercition, que ce soit celle de l'État islamique ou les persécutions ou les désagréments qu'ils subissent dans des pays européens qui ne comprennent pas très bien le pluralisme religieux. Ils sont musulmans parce qu'ils ont la foi. Et ils peuvent être femmes, islamiques, enfin croyantes, et au nom de l'islam, contester le hijab, contester le voile, en disant c'est une interprétation machiste de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, et vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle un féminisme islamique, c'est-à-dire des militantes islamistes qui se battent contre le hijab, qui se battent pour l'égalité des droits de la femme, etc. etc. Par exemple, en Iran, vous avez un mouvement islamique féministe, ou plus intéressant encore, vous avez un mouvement, un million de signatures contre les discriminations à l'encontre des femmes, qui était un mouvement qui a réconcilié, au fond, on va dire, les sécularistes, enfin les gens qui avaient plutôt la sensibilité de l'ancien régime, et des féministes islamiques, des femmes croyantes, et puis bon, derrière, évidemment, beaucoup d'hommes. Vous avez des femmes aujourd'hui, très croyantes, qui n'ont aucune intention d'abandonner leur foi musulmane.
Oui, justement, je pensais à l'apostasie, parce que alors, les gens sont condamnés à mort en cas d'apostasie.
Dans certains pays, oui. Est-ce à Genève qu'on doit s'en étonner ? Les religions sont évolutives. Je crois que, encore une fois, vous avez des interprétations de l'islam qui sont complètement différentes. Et vous avez dans l'islam le même bon sens que l'on attribue, par exemple, dans certains romans italiens à Don Camillo, c'est-à-dire des gens qui sont religieux, qui sont même pourvus d'une autorité religieuse, mais qui, avec beaucoup de bon sens, beaucoup savent bien que Dieu reconnaîtra les siens. Et que, si vous voulez, là je vais vous livrer une réflexion plus personnelle ou une impression plus personnelle. Mon itinéraire a voulu que j'ai beaucoup fréquenté des sociétés musulmanes, étant enfant, parce que j'ai vécu en Afrique, et puis comme jeune homme, faisant ces voyages de bildung, de formation de jeune homme. Bon. Je n'arrive pas à comprendre cette espèce d'équation entre islam et violence, intolérance, etc. J'entends bien, je ne vais pas idéaliser les sociétés musulmanes, je sais bien que la proportion de crétins et la proportion d'assassins est aussi grande dans les pays musulmans que dans les pays chrétiens ou bouddhistes ou je ne sais quoi. Bon, les musulmans sont des gens comme les autres. Mais par mon histoire personnelle, je ne peux pas associer des sociétés dans lesquelles j'ai été accueilli avec autant d'humanité, d'hospitalité, d'attention et de tolérance. Jamais, par exemple, ma foi n'a été un problème, ou mon absence de foi. Jamais. Le seul pays où on m'a offert une croix chrétienne, c'était en Iran. Une petite croix en or chrétienne dessinée par un Arménien, mais c'est une famille musulmane, la famille qui m'accueillait, qui m'a offert cette croix chrétienne. Bon, pour moi, l'islam, c'est ça. Donc, j'ai, je pense qu'il faut, il faut dédramatiser la question, il faut la déidentariser. L'islam n'existe pas, parce que vous avez dans l'islam la même proportion, je le répète, d'imbéciles qu'ailleurs, mais pas plus.
Je profiterai alors de la remarque du professeur Bayard pour donner la parole pour une dernière question.
Vous combinez l'éloquence et la connaissance à merveille, on vous en remercie. J'avais juste un besoin de commentaire de votre part sur l'économique et le financier, le religieux et l'économique. Les États-Unis, In God We Trust, où on le voit sur tous les billets. En Allemagne, la fiscalité religieuse. Au Danemark, vous n'avez pas de religion à la naissance, on vous en impose une. Quel commentaire pourriez-vous faire à ce sujet ?
Alors c'est un vaste sujet, c'est le cinquième point mais que j'ai gardé pour moi et je vous remercie de me permettre de l'aborder. Peut-être deux ou trois remarques le plus rapidement possible. La première, c'est qu'il faut relire Max Weber. Mais là aussi, il faut être un salafiste. C'est-à-dire qu'il faut retourner aux écrits de Max Weber dans toute leur complexité. Et Max Weber n'a jamais dit que le protestantisme était la cause du capitalisme. Il est beaucoup plus nuancé que cela. Et son ami théologien Ernst Troeltsch résume bien la chose en disant « Si le protestantisme a contribué au capitalisme, c'est malgré lui et à son insu. » En faisant l'exégèse de la pensée de Max Weber. Donc il faut relire Max Weber. Si possible en allemand, et si on ne peut pas le lire en allemand, il faut le lire dans l'édition de Gallimard, en français, édité et traduit par Jean-Pierre Grossin, qui est vraiment le grand exégèse qui a complètement renouvelé notre compréhension de Max Weber en français, ou alors en anglais, l'édition Economy and Society chez California of University of California Press, mais surtout pas la traduction de Talcott Parsons, qui est épouvantablement normative et idéologique. Bon, ça, c'est pour les notes en bas de page. On ne se refait pas. Je suis chercheur, je suis désolé. Le deuxième point, c'est que l'impôt religieux est intéressant parce que, évidemment, là, vous avez des modes d'organisation du rapport religion-politique extrêmement variables. Mais ce que la plupart des Français ignorent, c'est que dans leur république indivisible et laïque, il y a trois ou quatre départements, je ne sais plus, qui payent l'impôt religieux. L'Alsace-Lorraine, libérée ou arrachée, comme vous voulez, de l'Allemagne en 1918, ce sont des départements qui n'ont pas connu la loi de 1905. Et dans son très grand pragmatisme, la République laïque en 1918 a compris qu'il ne fallait pas remettre ça en cause. Parce que c'était rallumer une guerre religieuse, se créer un gros problème politique dans des départements qui n'étaient peut-être pas aussi ravis que cela de revenir dans le giron de la République française. Hein. Donc voilà une République qui n'a pas grand-chose à voir, je ne vais pas finir ma phrase, avec certains théoriciens laïcards d'aujourd'hui, mais qui montre que la séparation, entendue dans un sens libéral, est évidemment très apaisante et très pragmatique. La troisième chose, ce sur quoi j'aurais voulu insister, c'est qu'aujourd'hui, l'interaction entre la religion et l'économique, elle est flagrante, c'est qu'on a un néolibéralisme religieux. Et on voit très bien, un politiste suisse, Patrick Henny, a parlé d'islam de marché. Et effectivement, bon, par exemple, en Turquie, quelqu'un comme Erdogan, d'origine enfin, confessionnelle, religieuse, sur le plan politique, aujourd'hui beaucoup plus nationaliste, hein, et très césaropapiste, on le voit bien dans son affrontement avec la confrérie des Fethullahs, Erdogan est surtout un néolibéral sur le plan économique. Et il a, si vous me pardonnez le néologisme, néolibéralisé la Turquie, et de ce point de vue, il est tout à fait compatible avec la plupart des dirigeants ouest-européens, hein, et tout à fait européen dans sa démarche. Bon. Et on voit bien, au fond, comment également il y a une corrélation entre le pentecôtisme, qui est une religion de la prospérité, hein, le gospel, mais aussi une prospérité matérielle. C'est votre prospérité matérielle, et si possible la grosse Mercedes que vous avez garée devant le temple, qui assure votre accord avec Dieu. Donc on est dans un univers très capitaliste, si vous voulez, d'affirmation religieuse du capitalisme. Et moi, j'ai été très fasciné de voir comment, vous savez, en fiqh, en droit islamique, le varf, c'est l'équivalent du bien de main morte, hein, de l'endowment ou de la fondation. Bon. Eh bien, cette institution du varf est parfaitement compatible avec toute la sous-traitance, toute la délégation qui est le propre de l'économie néolibérale. C'est-à-dire que l'État va confier à un varf la gestion d'un service public et par exemple tout le Hajj est organisé, tout le Hajj des Iraniens à la Mecque, le pèlerinage, est organisé par un varf à qui l'État, sur le mode du partenariat public-privé, confie la gestion du pèlerinage. Et inutile de vous dire que cette forme de partenariat public-privé est aussi lucrative en Iran qu'elle peut l'être dans les pays capitalistes les plus avancés européens ou nord-américains. Donc le VARF est une institution qui est éminemment, une institution religieuse qui est éminemment propice au néolibéralisme. Et ça, c'est un point de jonction qui est assez intéressant à voir.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Merci pour votre exposé riche.
Merci pour votre accueil.
Naturellement.
Merci beaucoup.
Alors, je rappelle que le dernier ouvrage paru est à disposition pour ceux que ça intéresse. Ils peuvent l'acquérir tout de suite, hein, maintenant. Je rappellerai aussi que, après cette première conférence, nous aurons la seconde au mercredi 18 mai, intitulée « Le sacré camouflé ». Vous verrez aussi monsieur Fernand Schwartz, anthropologue de Paris, à la riche expérience qui vous présentera les subtilités du sacré. Le sacré camouflé, c'est-à-dire le sacré qui est partout, le sacré qui s'est infiltré effectivement dans la vie civile. Et il entrera évidemment en résonance avec les propos de M. Bayard de ce soir. Et enfin, le mardi 24 mai, donc dans le programme, la troisième conférence du cycle, par le professeur Philippe Gonzalez, qui portera sur intégrisme et fondamentalisme religieux. À savoir que intégrisme et fondamentalisme religieux, c'est vieux comme Nabucodonosor, comme Noé, comme Hérode, comme, je ne sais pas, comme le Pharaon, comme les Assyriens, c'est vieux comme le monde. Donc rien de nouveau, et en même temps, tout se transforme. Bonne soirée. Et merci beaucoup.